En marge de la célébration ce 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse par l'humanité entière, le réseau de radio et télévision de proximité du Kassai Oriental, RATPOKA en sigle, en partenariat avec la Fédération de radio de proximité du Congo, FRPC en sigle, vous propose cette émission spéciale sur la situation de la liberté de la presse. Au cours des 60 minutes, nous allons essayer de dresser l'état des lieux de l'exercice de la liberté de la presse dans la province du Kassai Oriental dans son ancienne configuration. Nous tâcherons également avec les invités de voir l'attitude à adopter par les professionnels de médias pour jouir pleinement de cette liberté de la presse dans l'exercice de leurs fonctions et surtout en cette année électorale. Nos invités sont Clément Tidibi, chef de division de communication et médias pour la province du Kassai Oriental, Guilain Banza, coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Kassai Oriental, Lambert Mbouikana, président provincial de l'Observatoire de médias congolais et chevronné de la presse locale, Rose Mbouikankou, présidente provinciale de la société civile Force Vive. L'équipe du RATPOKA qui vous sert ce jour est composée de Sabin Misakabou de Radio Ditunga de Ngandajika, André Chimouidiki de la Radio Fraternité, une radio de Mbujimaï, Jean Benga de la Radio Toutante de Mouinaditu, Johnny Kassongo de la Radio Veritas de Kabinda, Alidor Kassongo de la TBM, une radio communautaire de Mbujimaï. Freddy Kalombo Mbouyamba, c'est mon nom, et le tout se passe sous la supervision de Dona Mwamba Moudilampi. Et sans oublier John Mwamba Ilunga qui est à la technique. Cette émission est réalisée grâce à l'organisation internationale américaine Internews avec l'appui de l'USAID. À tous et à toutes, bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Merci beaucoup. Nous revenons ici au studio pour ouvrir le débat. Monsieur Guilain Banza, nous voudrons quand même commencer en ayant la même compréhension de ce concept. Liberté de la presse, ça signifie quoi?
Merci pour l'opportunité que vous nous accordez comme régulateur à participer à cette émission. La liberté de la presse, à notre entendement comme régulateur, c'est le fait qu'on accorde aux professionnels des médias le temps de s'exprimer et de faire parler des gens librement et sans contrainte. Et là, c'est même conforme à la constitution de notre pays, où il y a la liberté d'opinion. Chacun vient, il s'exprime, mais attention, en respectant les lois du pays. Parce que nous, comme régulateurs, c'est là notre base. Et quand vous enseignez le code d'éthique et de déontologie, et là, nous sommes derrière vous, nous vous disons, par ce canal de médias, on peut s'exprimer librement, mais on ne peut pas confondre la liberté au libertinage. Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur le chef de division, c'est la même appréhension que vous avez de ce concept liberté de la presse.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que quand on parle de la liberté de la presse, c'est d'abord dans le secteur médiatique. On doit s'exprimer, on doit parler librement, mais tout en respectant, parce que nous, nous occupons de la réglementation du secteur. Donc, on doit respecter les prescrits de la loi 002/96 du 22 juin 1996. Il porte vraiment sur la liberté de la presse. Donc, il y a tous les chapitres qui sont là-bas sont consacrés aux garde-fous qui font que vous ne pouvez pas enfreindre le camp de l'adversaire, parce que quand vous êtes en train de parler, vous devez vous limiter à la liberté des autres.
Merci beaucoup. Monsieur Isaac Lambert Mbouikana, vous êtes vous président provincial de l'Observatoire de médias. Vous pensez qu'aujourd'hui, à travers la province du Kassai Oriental, les journalistes jouissent de cette liberté de la presse?
Dans l'entendement déjà avancé ici, c'est l'opinion que l'on exprime par la voix de médias, qu'il soit audiovisuel ou écrit. Si c'est cela, le fait qu'il existe dans cet espace de maison des entreprises de presse où sont recrutés et travaillent les journalistes, nous pouvons dire qu'il existe cette liberté, bien que relative au Kassai Oriental, parce que la profession existe, les professions de médias existent, le média eux-mêmes existe et les journalistes s'expriment et leurs invités dans le cadre de la diffusion de l'information ou du partage des idées et dans la production audiovisuelle ou écrite. Donc on peut dire que relativement, il y a cette liberté d'expression par le média au Kassai Oriental. La liberté de la presse, comme toute liberté, est une liberté fondamentale. Un droit de l'homme de pouvoir s'exprimer et exprimer son opinion. Mais comme toute liberté, la liberté de la presse reste relative parce qu'elle doit s'arracher. Elle n'est pas absolue. Parce que de part et d'autre, il y a des obstacles dans le chef de nos professionnels de médias qui font que nous ne puissions pas nous exprimer librement, et de la part des opérateurs, qu'ils soient politiques, économiques ou autres, qui posent des obstacles à cette expression. C'est pour cela que nous disons que la liberté de la presse est relative, elle n'est pas absolue. C'est une bataille.
Donc c'est un combat qui continue. Madame Rosemary-Cancour, aussi votre point de vue, vous
oui,
qui,
merci bien.
En tant que société civile, vous êtes là comme une sentinelle.
Oui, merci bien. Moi, j'entends par la liberté de la presse, je vois la présence des médias, d'abord. En fait, nous allons nous répéter comme les autres intervenants actuellement. Moi, je suis d'avis qu'il y a la liberté de la presse, parce que je vois qu'il y a la présence des hommes des médias. Je vois qu'il y a des canaux par lesquels les hommes des médias sont en train de faire passer l'information ou le message, ou faire passer l'opinion publique. Donc, pour moi, je pense que la liberté de la presse existe, mais cette liberté a aussi des limites.
Elle existe, mais elle a des limites. Monsieur le coordonnateur, la liberté de la presse existe au Kassai oriental, mais elle a des limites. C'est votre point de vue aussi?
Oui, je crois que il faut comprendre des choses. Quand on parle des limites, c'est, je me répète, c'est par rapport aux lois qui constituent pour les professionnels des médias et pour les régulateurs que nous sommes et l'autorégulation, qui est l'OMEC, et qui constitue au fait ce qu'a dit le chef de vision tout à l'heure, le garde-fou. Des limites, on dit toujours que la liberté de l'un s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Des limites, c'est aussi par rapport à certaines réalités, n'est-ce pas, dans les milieux où nous évoluons. Il y a ici chez nous, par exemple, où nous avons, par rapport au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, une réglementation. Nous avons une directive, nous avons des directives par rapport à la pratique professionnelle dans les médias en République démocratique du Congo. Nous avons des mœurs à préserver ici chez nous. Et ça fait qu'on vous limite à certains moments ce que les autres disent. Les autres, je parle par exemple des Occidentaux ou d'autres qui viennent d'autres cieux où ils ont une culture tout à fait différente de la nôtre, mais qui est dans le sens de donner une information consommable par les publics auquel l'information est destinée.
Oui, nous allons prendre un cas concret. Il y a un journaliste qui a vécu un cas de tournement des deniers publics, de l'argent public, et dans ce cas-là, si on doit l'appeler à pouvoir gérer cette information-là, parce qu'il y a des limites, et si, surtout que cette information peut concerner les responsables de l'État, hein, au plus haut niveau, comment est-ce qu'il peut gérer ces cas? À quel niveau il peut se censurer, s'auto-censurer?
Ça, c'est un problème de gouvernance. Je crois que notre pays est parti des pays signataires, des pays qui ont accepté d'appliquer toute la gouvernance dans la gestion de la chose publique. Et je crois que ça n'a rien à voir. Le problème, c'est de rendre l'information et comment la rendre. Quand on a toutes les données, on a des preuves de tout ce qu'on doit diffuser et dans quel esprit on rend ce qu'on a reçu comme information, quelle que soit la personne qui commet la faute, mais la faute reste la faute. Mais comment on rend cette information?
Merci beaucoup. Monsieur le chef de division, à quel moment on peut parler de la liberté de la presse dans l'exercice de la fonction journalistique? Au moment de la collecte des données, au moment de la diffusion de l'information, à quel niveau la liberté de la presse peut intervenir?
Merci beaucoup. Je tiens aussi à préciser que, comme un des intervenants ici l'a souligné, la loi numéro 002/96, du 22 juin 1996, qui fixe les modalités de la liberté de la presse, a ouvert la porte au pluralisme médiatique. Ce qui veut dire qu'effectivement, toute personne, que ce soit physique ou morale, peut ouvrir une entreprise de presse. C'est une liberté aussi, mais à condition d'introduire au préalable une déclaration d'exploitation auprès du membre du gouvernement. Donc vous voyez déjà que, comme l'intervenant tout à l'heure venait de le dire, que la liberté de quelqu'un, ça s'arrête là où commence l'autre liberté. C'est pour dire qu'il y a toujours des normes, il y a toujours des garde-fous qu'il y a pour qu'on puisse réglementer les choses. Donc, c'est pour dire que ce sont là les quelques conditions qui font que la profession a des règles et a des critères pour pouvoir les observer. Moi, c'est là où nous parlons qu'effectivement, il y a liberté de presse. Et quand il s'agit de parler de collecter, traiter, diffuser, cela veut dire que on peut prendre une information, on ne peut pas diffuser cette information si on ne l'a pas traitée. Traiter, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses autour des traités.
Oui, ça. Entre autres, est-ce qu'on peut retenir au moins du moins pour aujourd'hui?
Je prends par exemple un cas. Vous arrivez sur le lieu, vous trouvez qu'il y a un fait qui s'est produit. Vous ne pouvez pas le prendre tel qu'il est là-bas, vous allez le diffuser. Vous devez d'abord regarder votre position professionnelle, c'est-à-dire vous devez regarder dans votre miroir. Ce fait s'est produit où? Comment? Tout ça, vous devez vous poser des questions. Ensuite, vous devez voir par rapport à l'éthique. Quand vous traitez cette information, vous regardez votre éthique, vous regardez votre déontologie, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire. Et dans le traitement, il y a aussi, on doit savoir, si j'ai dit ceci, est-ce que par après, il n'y aura pas un problème? Donc, il y a beaucoup de questions qu'on se pose avant de livrer une information. Et si ça ne se fait pas comme ça, ça fera de l'ubertinage.
Donc, c'est beaucoup plus au niveau du traitement.
Du traitement.
Merci beaucoup, monsieur le chef de division. Monsieur Isaac Lambert-Mouikana, vous êtes de l'Observatoire des médias. À ce jour, comptez-vous combien de journalistes dans des maisons carcérales?
Quand je disais que la liberté d'expression est relative, parce que la profession est exercée dans les limites des lois et aussi dans l'espace, c'est déjà lié à cette question. Parce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas un seul journaliste qui est en prison pour avoir exercé son métier de journaliste.
Au Kassai-Oriental. Dans son ancienne configuration.
Donc aujourd'hui. Mais pour le moment, je crois que les choses de ce côté-là sont relativement bonnes. Et je ne les vois jusque-là parce que nous ne savons pas si demain, les choses vont changer de manière négative ou positive.
Mais donc, vous n'avez même pas des informations sur des journalistes qui sont harcelés par les politiciens ou par je ne sais quelle personnalité.
Oui, là, il y a deux cas que nous ne pouvons pas citer normalement ici, mais il y a des journalistes qui sont intimidés. Il y en a quand même qui sont intimidés par rapport au débat des émissions à caractère politique. Il y a des journalistes qui sont inquiétés par les services de sécurité pour avoir dit ceci ou cela. Moi, personnellement, régulièrement, je suis en contact avec les services de sécurité qui, pour moi-même, pour ma maison ou pour certains journalistes, essaient d'avoir des renseignements sur ce qui s'était dit et pourquoi c'était dit ainsi.
Au moins, il y a des journalistes qui sont menacés. Mais avant de poser la question à Mme Rose Mbouy-Kankou, je voudrais qu'on rentre du côté de la technique. On va suivre ce Vox Pop qui a été réalisé par nos confrères que j'ai énumérés dans l'introduction de cette émission. Dans ce Vox Pop, ces professionnels du média, ce sont des journalistes qui vont parler. Ils vont répondre à la question de savoir que pensez-vous de l'exercice de la liberté de presse dans votre milieu. Nous serons à Cabinda, nous serons ici en Boujema et nous serons aussi à Mouenéditou. On rentre du côté de la technique pour suivre ce que ce journaliste pense de l'exercice de la liberté de la presse dans leur milieu.
La liberté de la presse ici au Kassai-Oriental n'est pas du tout respectée parce qu'il y a des fois constaté que certains journalistes qui essayent de s'exprimer librement, vous verrez toujours après quelques minutes, ils reçoivent des messages de menaces et là on constate directement que la liberté de la presse ici au Kassai-Oriental n'est pas du tout respectée.
La liberté de presse est presque respectée ici à mon avis personnel. Des émissions qui pouvaient ne pas se passer ou des termes qui pouvaient causer un peu de problèmes qui les font ne sont pas inquiétés par après. Ce qui me fait dire qu'à ce jour, nous tendons pratiquement à la liberté de presse toute faite.
D'emblée, nous pouvons dire que cette liberté-là est respectée au Kassai-Oriental, dans ce sens que les journalistes pressent sans problème, selon qu'on se trouve dans telle ou telle émission ou dans les journaux. Dans la majeure partie, la liberté de presse est observée. Mais il faut élever une chose, c'est que ce respect est relatif.
Combien de fois nos confrères journalistes ont été tracassés au Kassai? La liberté de presse n'existe pas tellement. Parce que si vous essayez de donner une information qui touche à la personne de l'autorité, ça va vous créer des problèmes. Nous ne sommes pas libres.
L'état des lieux de la liberté de presse en ce qui concerne la province de Lomami. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucun journaliste incarcéré. Nous n'avons aucun journaliste interpellé. Il n'y a aucun journaliste tué dans l'exercice de ses fonctions. C'est pour vous dire qu'il y a des avancées significatives et que nous remercions nos amis journalistes qui observent des textes. C'est peut-être un cas isolé qui s'est présenté à Mouenadjit, où un journaliste, qui s'est improvisé journaliste, entre parenthèses, nous pouvons dire ça, est allé au micro, commencer à changer ou à lancer des injures contre les personnalités importantes de notre pays. Il a été interpellé et quelques jours après, on l'a relâché.
Merci beaucoup, John Mwamba. Ce sont là quelques journalistes qui s'exprimaient. Et le journaliste de Kabinda, les journalistes de Mouenadjitou et ceux d'Mbujumaï. Ce Vox Pop était réalisé par Jean Benga, Johnny Kasungu et Alidor Kasungu. Madame Rosemboui Kanko, vous avez suivi les avis sont partagés.
Oui, merci bien. Je pense qu'au niveau de la presse, on a besoin de la professionnalisation. Comme vous le savez, comme vous l'avez entendu, je suis en train de jeter des fleurs aux journalistes de toutes les provinces ou de l'ancienne province du Kasaï oriental. Donc ce qui fait que ces journalistes, ils ont respecté le code d'éthique et de déontologie jusqu'à maintenant. Bien qu'il y a beaucoup d'avancées, mais il y a aussi des défis à relever par rapport au métier du journaliste. Parce que vous allez voir que dans la profession des journalistes, il y a des moutons noirs. Et toutes ces personnes peuvent être à la base des menaces et des intimidations. Donc, ils peuvent recevoir des menaces et des intimidations parce que ce sont des gens qui ne sont pas contrôlés par la profession. Donc, ici, nous sommes en train de dire et de demander aux responsables des médias de pouvoir ouvrir l'œil et le bon pour pouvoir contrôler les journalistes, de ne pas recruter n'importe qui, parce que le métier de journaliste, c'est pas le métier de n'importe qui, on vient de le dire.
Mais il y a aussi cet autre journaliste qui a dit qu'avec cette difficulté pour le journaliste d'avoir de l'argent, ils peuvent se laisser facilement corrompre par les sources d'information. Dans ce cas, avec cette pauvreté-là, le journaliste peut travailler en toute liberté.
Oui, je pense que c'est possible de travailler tout en étant pauvre, mais tout en étant aussi journaliste. Pourquoi? Parce que si vous ne voulez pas, vous aimez le métier de journaliste, il faut accepter. Et si vous ne voulez pas du métier de journaliste, moi je l'ai toujours dit, vous dites que vous êtes mal payé, il faut démissionner. Vous cherchez autre chose à faire. Mais il faut réclamer, selon la loi. C'est pourquoi je vous ai dit, nous avons notre corporation, il y a la Union Nationale de la Presse. C'est un syndicat de journalistes. Qu'est-ce que cette corporation fait comme travail? Jusqu'à ce jour, il y a des journalistes qui ne sont pas payés. Il y a des journalistes qui n'ont pas signé des contrats avec leur maison de presse. Il y a des journalistes qui continuent à travailler comme collaborateurs pendant plusieurs années parce qu'il doit se débrouiller lui-même en faisant des coupages, ce qui est vraiment interdit dans le métier. Donc, je pense que c'est un plaidoyer que nous avons toujours fait pour qu'on améliore les conditions sociales des journalistes. Mais c'est comme on a dit, la liberté, ça s'arrache. C'est pas qu'on va vous donner ça sur un plateau. Donc, les journalistes doivent se battre. Et en se battant, il faut respecter les conditions du métier.
Alors, monsieur le chef de division, avec ces contextes financiers qui posent un peu problème pour le journaliste, vous pensez qu'il est vraiment possible de pouvoir, pour le journaliste, de travailler en toute liberté?
Bon, d'abord, cette question-là, pour la répondre, il y a deux aspects. Je suis responsable d'une radio, j'ai créé la radio. Peut-être, il y a un professionnel qui m'a animé pour dire, créer la radio, on aura l'argent. Quelqu'un débourse l'argent. Ne fait pas l'étude du projet. C'est-à-dire, on a créé cette radio comme ça, parce qu'on dit que là-bas, on a entendu, on a tout ça. Même les professionnels, même qui sont censés défendre leurs droits, ne défendent pas. Venez, vous serez directeur chez moi. Mais posez d'abord la question de savoir, je serai directeur chez vous, bien sûr, je suis un professionnel de médias, ça sera comment? Non, non, on va d'abord, vous-même, vous ne savez pas défendre vos droits. On va d'abord, on vous donne un peu de 5 000, 10 000, tout ça. Vous trouvez que ça vous suffit. Maintenant, quand vous allez commencer à travailler comme directeur, vous n'avez pas de contact. À qui la faute? D'abord, au journaliste lui-même, qui doit revendiquer son droit. S'il trouve que ça ne va pas, il doit déposer. Parce qu'un journaliste, c'est un professionnel, un monsieur, qui est censé donner des leçons aux gens. C'est un éducateur. Mais quand il se trouve que non, si je ne fais pas les soins, je n'aurai pas 5 000. Est-ce un salaire? Il doit poser les problèmes au préalable. Il doit expliquer même à celui-là, voilà des conditions d'ouverture, voilà, voilà, voilà. Je connais beaucoup de problèmes au niveau de la division, parce que les entrepreneurs qui viennent toujours accompagner des journalistes qui les induisent en erreur, par après, on ne savait pas que c'était comme ça. Donc, le journaliste lui-même doit revendiquer ses droits. Vous trouvez que quelqu'un qui a trouvé un émetteur quelque part n'a pas les moyens de payer même les frais de déclaration. N'a pas même le moyen de... Il commence à y aller en tâtonnant. Vous restez là-bas et demain vous dites, on ne m'a pas payé. À qui la faute? Ce sont des questions de réflexion qui demandent qu'un journaliste professionnel doit d'abord connaître ses droits, les défendre lui-même, et puis quand ça ne va pas, il doit déposer.
Ok, merci beaucoup. Avant de continuer, je voudrais quand même qu'on parle de cet article publié par Reporters sans frontières à l'occasion de la célébration le 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse. Et dans cet article, le RSF, Reporters sans frontières, fait le classement de pays où la liberté de la presse n'est pas respectée. Et dans cet article, le pays, la République démocratique du Congo, est aujourd'hui 152e sur 180 pays. Et dans cet article, on dit que le score de la RDC accuse la troisième et plus faible, plus forte baisse du continent africain. Monsieur le coordonnateur de CESAC, nous approchons de la période électorale. Voyons d'abord, parce que j'ai pas voulu qu'on parle de tout ce qui est dit dans cet article. Nous sommes pendant la période électorale et nous avons ces classements. Comment vous le trouvez? La RDC qui est 152e sur les 180 pays au monde en ce qui concerne le respect de la liberté de la presse.
Je crois que la meilleure réponse viendrait de la motivation des Reporters sans frontières. Comment est-ce qu'ils ont motivé ce classement? Qu'est-ce qu'ils reprochent à la République démocratique du Congo? Je crois qu'à partir de là, on argumenterait très fortement pour expliquer la chose pendant cette période électorale qui est une période de forte agitation.
Je ne vous coupe pas la parole, je voudrais prendre un des aspects évoqués ici. On me dit par exemple avec la perspective d'une nouvelle candidature à la présidentielle de Joseph Kabila à la fin de l'année, si l'élection est bel et bien organisée, le pouvoir harcèle de plus en plus les organes de presse en République démocratique du Congo. Les élections locales et la restructuration administrative des provinces en 2015 avaient déjà accentué la pression sur le média public comme privé.
Oui, alors à ce moment-là... Freddy, vous devez comprendre qu'il y a à boire et à manger dans ce classement des Reporters sans frontières. Je le disais au début que la République démocratique du Congo a des mœurs à défendre. Je prends juste un tout petit exemple qui n'est pas peut-être bienvenu pendant ce temps, mais qui est nécessaire pour nous qui avons travaillé avec le régime de Mobutu Sese Seko. Je vous dis que on lui a posé autant de questions par la presse étrangère autour des médias dans son pays. Mobutu disait tout simplement en Afrique, le chef doit être respecté. Je prends cet exemple juste pour dire que la culture européenne occidentale n'est pas, je me répète, la culture africaine n'est pas la culture de la République démocratique du Congo. Dans les cas d'espèce, on parle de, ça c'est la loi fondamentale, c'est la constitution qui parle de mandat de chef de l'État. Je ne veux pas parler politique ici, je veux vraiment parler médias. Je pense que la guéguerre dans les médias autour de cette candidature, ce ne sont pas des journalistes, mais ce sont des acteurs ou des opérateurs politiques qui viennent dans des médias et qui viennent faire leurs échanges autour d'une table ronde, comme nous sommes assis. Le journaliste, lui, son rôle, c'est un rôle de modérateur. Il est en train de modérer les débats, mais qu'on dise que quand cette presse ou ces médias se font fermer, c'est quoi au fait? Je voulais relever ça. Vous êtes journaliste, animateur d'une émission de débat politique ou qu'importe. Vous avez la police des débats, vous avez la gestion de ces débats. Et si vous ne possédez pas cette gestion, ça va se glisser comme du savon et ça crée un problème. C'est quoi que je veux dire? Que vous laissez les intervenants raconter leur vie au micro. Vous les laissez dire ce qu'ils veulent dire autour de X ou de Y. Et là, c'est le canal. Je commence par moi-même comme régulateur, j'ai dit... C'est la TBM et RTV qui a diffusé l'information. Avant de voir les acteurs politiques que vous avez invités, avant de voir l'animateur lui-même qui a failli dans sa mission de modérateur de cette émission. Il y a des normes à respecter et à faire respecter. Parce que quand on a la police de débat, on peut arracher la parole à tout intervenant au micro, dans le studio. On peut lui arracher la parole. On a le droit. Vous faites la police des débats, vous êtes l'unique responsable. Et si vous laissez passer des choses, des insultes, de la xénophobie, des incitations à la violence, de propos diffamatoires, d'outrages à l'autorité. Je crois qu'il y a toute une liste de délits qu'on peut commettre dans la profession. À ce moment-là, vous cherchez le courroux des lois, pas des institutions. J'ai dit, c'est le courroux des lois. Nous avons des lois qui régissent la profession dans notre pays, et ce sont ces lois qui vont vous rappeler à l'ordre, tout simplement. Or, quand on parle d'une fermeture des médias, c'est tout à fait... c'est pas nouveau quand on ferme un média. Mais le classement est donné pour la place de la République démocratique du Congo, les médias qui sont fermés, réouverts après, il y a des lois... La loi organique qui organise les CESAC nous donne le pouvoir de fermer les médias.
Oui, monsieur le coordonnateur, oui. Je voudrais un peu qu'on parle des actes que le journaliste peut poser aujourd'hui et qui peuvent être un frein à sa liberté d'expression, qui peuvent constituer un frein à l'exercice de la liberté de presse.
Je voudrais rappeler ici un article de notre loi qui dit sont interdites à travers les médias l'apologie des crimes, l'incitation à la violence, la dépravation des mœurs, la xénophobie, la haine tribale, ethnique, raciale ou religieuse, ainsi que toute autre forme de discrimination. Et cet article existe, c'est dans la loi qui crée le CESAC. Donc, le journaliste est censé connaître que si j'incite à la haine, à la violence, je suis coupable. Je suis coupable. Je ne peux pas tout dire, je ne peux pas dire n'importe quoi. On a parlé de la réforme administrative,
oui.
Je crois. Et pendant cette période de la réforme administrative, nous au CESAC, nous avons enregistré des propos discriminatoires qu'on ne pouvait pas tolérer.
Prononcés par
des uns et des autres, prononcés dans les médias.
Dans les médias.
Non, mais c'est anormal. Laisser les politiciens se battre dans des salles, dans des hémicycles, et qu'on nous laisse à nous le temps de transmettre l'information qui unit le peuple et non qui divise. Mm-hmm. On a suivi ces déclarations dans la presse. Quelle telle partie qui est contente d'avoir reçu la province, on a commencé à jeter des colibés, à lancer des colibés à l'autre partie X et Y. Je crois que qu'on aille faire ça dans des meetings populaires au stade, le journaliste prend tous les sons, mais il vient les traiter, comme l'a dit les intervenants tout à l'heure. On vient les traiter. Est-ce que tout ce qu'on a pris dans les discours là, on vient tout balancer au micro, on traite, on prend le son qui est consommable, l'élément qui est digestif. On le prend cet élément et on le donne aux gens pour qu'ils aient le temps de le consommer. Sinon vous prenez tout, vous balancez, insultes, incitation à la haine ethnique, tribale, régionale, ainsi de suite, et puis la ville et la province est à feu. Et vous demandez au régulateur de vous regarder comme un petit bon enfant. Non, non, non. Et on prend le matraque, on prend le fouet, au fait, qu'est-ce que je voulais dire. Et puis, on essaie de corriger la chose. Voilà.
Ok. On rentre encore une fois de plus du côté de la technique. On va suivre quand même ce reportage réalisé par André Chimudiki Kabamba de la radio Fraternité et Sabé Misa Kabumbuyi de la radio Ditunga Angandajika. Et dans ce reportage, la question qui est posée aux intervenants dans ce reportage, c'est de savoir comment ils vivent la liberté de la presse dans leur milieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on puisse s'étirer de la situation. On va les écouter.
La liberté de la presse au Kasaï oriental, garantie ou pas, la question suscite encore des débats. Une majeure partie de l'opinion répond par la négative et affirme que la presse est muselée, sinon acquise à la cause du pouvoir qui seul veut s'exprimer librement. Mais il y en a aussi qui pensent que cette liberté de la presse commence à faire du chemin. Ils confirment cette thèse par le fait qu'au cours de certains programmes des médias, les co-débatteurs expriment quand même leur opinion malgré les menaces qui pèsent sur eux. Les hommes des médias de Mbuji Massé sont exprimés à ces sujets. Pierre-Serge Ntumba, rédacteur en chef à la radio-télévision de Bokassai, pense, jusqu'à preuve du contraire, que les journalistes de Mbujimayi et d'ailleurs ne font pas leur travail comme il se doit.
Il y en a parmi eux qui s'efforcent à le faire selon la déontologie du métier, mais ils sont souvent butés à certaines entraves. Je donne un exemple. Lorsque vous allez vers quelqu'un du pouvoir, de la majorité ou d'un parti allié ou d'une organisation alliée, celui-là parle sans problème. Et lorsque vous balancez ces propos, il n'y a pas de problème. En tout cas, mais lorsque vous allez vers quelqu'un de l'autre camp et qu'il parle des choses qui ne plaisent pas au pouvoir en place par après, et lui-même, et la chaîne, et le journaliste qui a réalisé le reportage risque d'avoir des problèmes parce que souvent il y a des menaces et des reproches. Mais de toutes les manières, c'est le journaliste lui-même qui doit tout faire à travers son travail pour arracher cette liberté de presse.
Pour Charles Mukendi, directeur de programme à Dinanga Radio-Télévision, c'est surtout pendant la période électorale que la plupart des journalistes sont victimes des tensions politiciennes.
Il y a des limites par rapport à la liberté de la presse. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que la liberté de la presse, c'est quelque chose qui s'use quand on n'en use pas. Il faut toujours avoir le courage d'user de la liberté de la presse. Mais quand vous n'en usez pas, elle s'use. Pour s'en tirer, les journalistes, d'abord, ils doivent être dans leur code déontologie et l'éthique professionnelle, ne pas se laisser tomber au piège de cela et surtout avoir le courage de dire les choses.
Les médias jouissent quand même d'une certaine liberté. C'est du moins l'avis de Madeleine Mouadi, rédactrice en chef à la radio-télévision Océan Pacifique.
Il y a quand même la liberté de la presse, parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez les différents médias à travers la province du Kasaï oriental, il y a de journalistes qui invitent les politiciens de toutes tendances, opposition tout comme majorité, et chacun des invités passe dans une émission, il donne son avis sur une question politique donnée, et je crois qu'il faudra quand même noter qu'il y a déjà eu une avancée significative dans ces secteurs-là, mais beaucoup de choses restent encore à faire dans ces secteurs.
L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Kasaï oriental, ne reconnaît pas non plus cette garantie de la liberté de la presse aux hommes des médias. Vicky Tiela, trésorière de cette corporation.
Les journalistes de Kasaï oriental, bien sûr, sont appelés à dire la vérité. Mais un journaliste se retrouve devant un fait accompli. Parce qu'on peut toujours collecter une information, mais on se retrouve dans les conditions telles qu'il n'y a pas moyen de la diffuser telle qu'elle est. On est obligé de déraper un peu. C'est ainsi que je dis que la liberté de la presse n'est pas vraiment respecté ici au Kasaï oriental.
Garantie par la loi congolaise, la liberté de la presse ne l'est pas encore totalement. Pour pouvoir l'arracher, les hommes des médias doivent recourir à leur Bible, les codes d'éthique et d'ontologie du journaliste. Les pouvoirs publics doivent aussi protéger les journalistes dans l'exercice de sa profession.
Les quelques journalistes que nous avons contactés estiment à 90% le taux de jouissance de leurs droits de la presse. Selon eux, des cas graves d'atteinte à cette liberté ne sont pas du tout signalés.
La liberté de la presse ici en Andangika, on dirait, est respectée à 70%. On n'enregistre pas des cas comme l'agression des journalistes, et les journalistes qui sont arrêtés sans raison. Les journalistes ne sont pas étouffés.
Nous trouvons que nous sommes à 90% libres par rapport à notre sécurité parce que nous n'avons jamais enregistré un cas d'un journaliste assassiné ou enlevé.
Les propos des journalistes sont corroborés par certains responsables des médias locaux. Justin Katen de Lumonan, directeur des programmes de la radio-télévision communautaire d'Nganajika, fait part des avancées significatives de la liberté de la presse au territoire vert.
La liberté de la presse a évolué un peu dans notre milieu selon qu'on a remarqué un plus par rapport aux années passées où il y avait autant de tracasseries, autant de restrictions au niveau des journalistes. Et pour le moment, je vois qu'il y a quand même une avancée terrible au niveau de l'administration, au niveau des services de sécurité, au niveau même de la population. Nous sentons quand même que nous avons évolué au niveau de la liberté de la presse.
Pour les présidents de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC sous-section de Nganajika, la liberté de la presse est un processus pour qu'elle soit vécue réellement. Flori Lukusa appelle ses confrères à l'observance stricte des règles d'éthique et de déontologie professionnelle.
Nous vivons correctement cette liberté de la presse du fait que d'abord les journalistes de la place se battent pour s'imprégner réellement des notions de la presse. Et je fais allusion directement à notre code d'éthique et de la déontologie du journaliste congolais parce que c'est le grand instrument à travers lequel chaque journaliste doit connaître ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire en tant que journaliste dans l'exercice de son métier.
Pour jouir pleinement de la liberté de la presse, les professionnels des médias plaident pour une collaboration entre les autorités et les autres institutions locales, ainsi que l'appropriation de l'action par les journalistes eux-mêmes.
les journalistes doivent se respecter d'abord. À ce moment-là, ils vont permettre aux autres de les respecter aussi.
Moi, je trouve que même ceux qui ont employé les journalistes dans leur maison de presse, ils doivent comprendre que malgré que ces journalistes dépendent de nous, mais c'est d'une part, ils ne dépendent pas de tout ce que nous pouvons avoir comme obligation.
La liberté de la presse n'est pas le libertinage. Les professionnels des médias doivent comprendre qu'ils ont non seulement des droits, mais aussi des devoirs.
Merci. Merci beaucoup, John Mamba. La technique, nous revenons ici au studio avec les invités. Nous entamons déjà la deuxième partie de cette émission qui concerne ce qui doit être fait par les journalistes pour qu'on puisse quand même ne pas tomber dans les erreurs qui vont nous amener à ce qu'on puisse parler du misèlement de la presse et des arrestations de journalistes. Monsieur Isaac Lambert Mbouikana, vous êtes de l'Observatoire de médias, président provincial. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui, surtout que nous sommes pas au cours de l'année électorale, par le journaliste pour qu'on puisse pas tomber dans les erreurs qu'on a déplorées dans le passé?
La première chose à faire par le journaliste lui-même est de maîtriser les règles de sa profession et de les appliquer. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes que nous avons avec des journalistes. Quand on suit de près, c'est avec ceux, soit ils se sont improvisés dans le métier, soit ils sont dans le métier sans en connaître les règles. Premièrement, maîtriser et appliquer ces règles. Ensuite, éviter de faire un journalisme dérivatif. Répéter ce que les autres font. Il faut aller à la source. J'ai écouté le coordinateur de SAC dire tout à l'heure là, que même un cas de détournement, il peut être dénoncé dans le média, mais il faut savoir comment le faire. Il faut savoir comment on traite le papier. Il faut d'abord commencer par aller vers la source et lui montrer les éléments que vous avez collectés et prendre son point de vue, son opinion. Comme ça, vous pouvez traiter et même lui dire que voilà, ce que vous avez dit et ce que j'ai eu, je vais le balancer. Donc, lorsqu'on exerce son métier en respectant des règles, on n'a pas de problème. Aussi, dès aujourd'hui, il faut qu'un journaliste travaille dans une stricte neutralité par rapport à la politique. Quand il y a des problèmes, c'est parce qu'on pense que les journalistes qui prennent position pour un parti ou l'autre constituent une adversité pour l'autre camp. Et là, quand on jette les pierres dans le camp, la pierre peut atteindre la tête du journaliste. C'est pas le journaliste qui a été visé, mais c'est le parti pour lequel il a pris parti, si on peut permettre la tautologie. Autre chose très importante à voir connaître aujourd'hui, c'est se former et s'informer. J'ai eu à échanger avec un responsable de la sécurité pour qu'on enlève une expression qui passait régulièrement, mais qui créait des problèmes. Les gens ne voulaient pas. Lorsqu'on appelle le président de l'UDPS, président de la République, on crée une confusion. Mais si on l'appelle président, tout court, on pense qu'il est président d'un parti politique. Parce que dans un pays, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas avoir deux présidents de la République. Voyez-vous, mais pour retirer cette expression de ma propre rédaction, j'ai dû beaucoup me battre. Mais si vous ne savez pas quel terme utiliser, si vous ne vous êtes pas informé, si vous ne faites pas former, vous construisez pour vous-même un danger. Donc, si je peux me répéter, il faut maîtriser les règles de son métier, il faut éviter de porter une couleur et il faut se former et s'informer, faire son travail correctement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut considérer ça comme votre conclusion pour aujourd'hui. Alors, Madame Rose Mbouikankou, au niveau de la société civile, qu'est-ce que vous pouvez recommander aux journalistes aujourd'hui?
Oui, merci bien. Je voudrais demander aux journalistes de respecter d'abord le code éthique et les déontologies, parce que c'est ça la Bible du journaliste. Et puis, le journaliste doit s'instruire, s'imprégner d'une information avant de la diffuser. Donc, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi au micro. Les journalistes doivent aussi se spécialiser dans d'autres domaines, parce que nous constatons que les journalistes aiment traiter seulement les questions politiques, alors que nous avons plusieurs questions qui peuvent être traités, qui peuvent aider la communauté. Il y a par exemple la question de l'assainissement. Donc les journalistes peuvent aussi s'imprégner, se spécialiser dans ces questions-là. Il y a plusieurs questions pour lesquelles les journalistes peuvent se spécialiser, mais malheureusement pour nous, les journalistes aiment se consoler dans la politique. Donc ils doivent mettre de côté des sentiments.
Il y a des journalistes qui passent au micro avec des sentiments. Ça, ils doivent mettre de côté. C'est ce qui leur crée des problèmes. Donc, les journalistes doivent éviter des règlements de compte. Vous avez un problème avec un député, ou il vous a dit ça à la cité, et vous passez au micro pour pouvoir le régler au micro, et vous dites n'importe quoi. Donc, c'est ça un peu des conseils que nous pouvons dire aux journalistes. Et donc, nous disons que le métier de journaliste est un métier noble, mais c'est un métier que vous pouvez faire lorsque vous respectez les codes d'éthique et de déontologie. Vous pouvez travailler plusieurs années dans ce métier sans pour autant avoir de problème.
Merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur du CESAC, c'est l'année électorale et les journalistes face à la liberté de la presse, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Le régulateur de médias en République démocratique du Congo vient de sortir une directive à faire respecter par les médias pendant cette période électorale. Ce n'est pas une nouvelle loi. Dans la directive, on retrouve des éléments de code, d'éthique, de déontologie, des éléments des différentes lois qui régissent notre profession dans notre pays. Et là, c'est juste un rappel et dire, voici comment vous pouvez bien marcher pour accompagner le processus électoral en République démocratique du Congo. Je voulais dire que le journaliste, avec cette directive, doit éviter d'être le maître chantre, comme je l'ai toujours décrié, un maître chantre d'un opérateur politique, un transporteur de mallettes d'un opérateur politique. Ce n'est plus du journalisme, ça devient... Le journalisme se transforme en valet. On devient un valet d'un personnage politique. Là, c'est à décrier à notre niveau. Et il faut savoir maîtriser la matière du sujet de votre émission. Vous provoquez un sujet qui vous dépasse, qui dépasse de très loin vos capacités. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas oser. Je dis que le micro, c'est une arme qui doit être manipulée par un professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a été entraîné sur le champ de tir. Le micro, c'est une arme. Il ne faut pas vous provoquer un sujet profond, réforme administrative, et puis il y a un problème, vous-même, vous ne maîtrisez rien sur la réforme administrative, on commence à vous donner des leçons au micro. Nous l'avons suivi, nous, régulateurs, on a eu honte de suivre des journalistes recevoir des leçons au micro. Ça nous a fait honte. Il doit se préparer, voilà, je crois, et maîtriser tous les principes de la très chère profession que nous exerçons.
Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, monsieur le chef des divisions. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, sinon, est-ce que vous pouvez avoir un message aux journalistes, surtout que le 3 mai, on célèbre la journée internationale de la liberté de la presse.
Je crois que de tout ce qu'on venait, les autres intervenants venaient de dire, c'est la maîtrise aussi de la loi, 002/96 du 22 juin 1966 et le respect des cahiers des charges. Et puis, deuxièmement, on doit se conformer aux exigences d'exploitation du secteur en régularisant les dossiers. Et tout ceci, tout ce qu'on a dit dans la prestation des journalistes, il faut avoir un directeur de programme professionnel. Parce que c'est celui-là qui est le responsable du son et de l'image et qui est chargé d'encadrer les autres journalistes. Qui rappelle toujours à l'ordre, c'est l'arbitre. Et le respect du statut déclaré peut éviter aussi de médias des conflits, pour ne pas être coincé par les services de sécurité. Vous êtes confessionnel, mais ce que vous parlez là-bas, hein, donc vous êtes en dehors de votre ligne éditoriale. Alors à ce moment-là, vous créez aussi des problèmes.
Donc, un petit message.
Oui, je dis que pour les journalistes, je leur demande d'observer les règles de jeu du métier.
Okay. Merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. C'est donc pratiquement fini pour cette émission spéciale que vous proposez. Les réseaux de radio et télévision de proximité du Kassai RATP-OK en sigle, en partenariat avec la Fédération de radio de proximité du Congo, FRPC en sigle, sur la liberté de la presse. Cette émission est produite à marge de la célébration ce 3 mai de la journée internationale de la liberté de la presse. Ensemble avec les invités, nous avons essayé de dresser l'état des lieux de la liberté de la presse dans la province du Kassai-Oriental.
orientale, ancienne configuration. Et dans la deuxième partie, nous avons terminé par là. Les intervenants ont dit ce que le journaliste doit adopter comme attitude pour éviter de déraper et surtout jouir pleinement de sa liberté de presse. Nos invités étaient Clément Tidibi, chef de division de communication et médias, Guylain Banza, coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Lambert Mbouikana, président provincial de l'Observatoire des médias congolais, Rose Mbouikankou, président de la Société civile Force vive du Kassai oriental. L'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission était composée de Sabin Misaka Bumbui de la radio Ditunga de Ngandajika, André Chimouidiki de la radio Fraternité ici en Boujumaï, Jean Benga de la radio Toutanté de Mouinaditou, Johnny Kassongo de la radio Veritas de Kabinda, Alidor Kassongo de la radio de la TBM, une radio communautaire de Mboujumaï. Freddy Kalombo Mbouyamba, c'est mon nom. Le tout était supervisé par Dona Mwamba Moudilan Picou. John Mwamba Ilunga était notre metteur en onde. Au nom de toute cette équipe, je vous dis merci pour votre attention et nous disons également merci à Internews et USAID qui ont appuyé la production de cette émission. Merci et à très bientôt.